On va prier, on va remettre ce temps au Seigneur. Oui Seigneur, ta parole est la vérité. Et il est remarquable que même si les paroles que nous allons contempler, regarder, étudier, ont été écrites il y a près de 2500 ans, elles n'en conservent pas moins toute leur pertinence pour nos vies aujourd'hui, en 2018. Nous sur qui la fin du monde arrive rapidement, d'après ta parole, Seigneur, même si on ne sait pas si c'est 1 an, 10 ans, 50 ans, encore 100 ans ou 1000 ans, on est plus près de la fin que du début, Seigneur, et on est reconnaissant que ta parole nous éclaire sur ce qui doit se passer, ce qui doit motiver nos vies, nos cœurs. Sois glorifié ce matin, dans cette église, mais aussi dans toutes les églises de cette ville qui t'adore en esprit, en vérité, et aussi dans la région, dans ce pays de France. Seigneur, nous voyons combien nos contemporains sont malheureux, même si matériellement ils ont beaucoup de choses, Seigneur. Et on sait que le problème, c'est le cœur, Seigneur. On te demande de toucher les cœurs de nos cœurs d'abord, pour qu'on puisse toucher ensuite les cœurs de ceux qui nous entourent, Seigneur, ou les amener à celui qui va transformer leur cœur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ce livre de Zacharie. Merci pour ce prophète obéissant qui a transcrit tes paroles, qu'il a reçues par ton Esprit Saint. Et Seigneur, nous te demandons de retraduire ces pensées qui venaient de toi par ton Esprit Saint dans nos cœurs maintenant. Nous prions ces choses par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Hier soir, je me suis souvenu, en fait, j'y ai pensé plusieurs fois dans la semaine, mais le 17 novembre 1968, mon papa est décédé d'un infarctus brutalement, et j'étais surpris de remarquer qu'en fait, ça faisait déjà 50 ans. 50 ans que mon papa m'a quitté et a quitté notre famille, ce monde. Et c'est normalement pas quelque chose que je célèbre ou que je reste, qui me prend beaucoup de temps, mais j'étais surpris de la façon dont les choses passent. Et aussi, en même temps, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la guerre de 14-18. Là, c'était le 100e anniversaire de la guerre de 14-18. J'ai mon grand-père et son frère qui sont morts dans les tranchées. Et c'était aussi quelque chose qui était un peu en noir et gris, en noir et blanc dans ma mémoire. J'y pense presque jamais. Pour moi, c'est vraiment l'ancien temps. Mais le fait qu'on ait célébré la mémoire de cette guerre, qu'on ait montré beaucoup de films, même en couleur, ça, d'un seul coup, ça m'a rapproché de ses ancêtres. Et la question aussi, c'est combien de temps est-ce qu'on doit célébrer ces commémorations ? Alors c'est vrai que ça peut avoir un sens symbolique et le gouvernement ou la nation veut essayer d'insister sur certaines choses ou on attend qu'il n'y ait plus aucun survivant de ces événements et là on peut oublier. Mais c'est aussi un peu la question qui se posait dans notre passage aujourd'hui dans Zacharie chapitre 7. On va regarder ce chapitre. Et on va voir que une question est posée à Zacharie sur le jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir de choses physiques, notamment de la nourriture, des boissons, dans le but de privilégier le spirituel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeûne complet, de jeûne intermittent, dans le souci d'améliorer sa ligne. Le jeûne physique n'est pas une mauvaise chose en soi, ça a des vertus médicales pour notre corps, Mais lorsqu'on parle de jeûner dans le cadre biblique, c'est pour privilégier le spirituel. Et si on jeûne, si je jeûne, ça ne doit pas être pour perdre quelques kilos ou quelques grammes ou centaines de grammes, ça doit être pour prendre le temps de me tourner vers Dieu et de penser à Dieu, de prier, de... Et c'est... Je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à le faire. Vous pouvez sauter un repas et vous allez voir que c'est fou ce qu'on gagne comme temps. Le temps qu'on passe à faire les courses, alors vous me direz, vous aurez peut-être fait les courses pour les autres jours, mais on passe du temps à faire les courses, on passe du temps à décider ce qu'on va prendre, on passe du temps à préparer le repas, on passe du temps à le consommer, et puis après ça, il y a encore la vaisselle et la rangée. Et en fait... Si vous le faites, vous allez remarquer que vous pouvez gagner une heure ou deux sur votre emploi du temps. Et ça, ce temps-là, ça devrait être du temps qui est consacré à Dieu. Ça peut être pour prier dans une situation difficile où vous avez besoin de conseils, vous recherchez la volonté de Dieu. Vous avez des situations où vous attendez des réponses de l'administration, des réponses de personnes autour de vous, vous voudriez que ça aille dans un certain sens, vous pouvez prendre ce temps pour prier et demander à Dieu d'exaucer ses prières ou de vous diriger. Et là, il se passe que... On va lire directement le chapitre 7. Je lis dans la version... qui s'appelle Second 21, qui est la version qu'on vous a prêtée, si vous n'en avez pas, ou si vous en voulez une, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. La quatrième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le quatrième jour du neuvième mois, qui est le mois de Kisle. La ville de Bethel avait envoyé Charetser et Regem-Melech avec ses hommes pour implorer l'Éternel en disant aux prêtres de la maison de l'Éternel, le maître de l'univers et aux prophètes, « Dois-je pleurer le cinquième mois en me privant comme je l'ai fait tant d'années ?» La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, m'a été adressée. « Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné et pleuré le cinquième et le septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et que quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles et que le sud et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs, ils se sont révoltés et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Parole de l'Éternel. Vous avez peut-être remarqué, ça revient comme un leitmotiv, comme une répétition régulière. La parole de l'Éternel qui est le maître de l'univers. Le texte littéralement dit « le Seigneur des armées ». Et ça fait référence à la puissance infinie de Dieu qui a à sa disposition toute la puissance qu'on peut imaginer et qui peut tout faire, qui peut tout changer, qui peut tout régler. Et c'est toujours important de penser que lorsque vous priez, lorsque vous faites des actes spirituels, religieux plutôt, est-ce que vous les faites vraiment pour ce grand Dieu tout-puissant ? Ici, ça parle en fait du rituel opposé à la réalité de notre cœur. On peut faire des choses religieuses, avec religiosité, avec régularité, avec ponctualité, mais on peut avoir notre cœur loin de Dieu. Le problème, c'est que l'homme ne voit que l'extérieur. Et donc, on a l'impression que si, même si on est loin de Dieu intérieurement, si on vient au culte le dimanche, si on participe à la vie de l'Église, etc., que les hommes vont penser qu'on est spirituel. Mais vous vous souvenez peut-être de cet épisode où le prophète Samuel devait choisir un successeur au roi Saül, à Saül. Et il avait vu les enfants, il était venu chez Isaïe, qui lui avait présenté ses enfants. Il avait même pas pensé, le papa n'avait même pas pensé à parler de David. Mais au début, il amène la personne qui semblait la plus propice à être désigné roi, ou la plus probable, c'était Éliab. Éliab, il est dit qu'il était grand, costaud. Et Samuel, le prophète, entend la voix de Dieu qui lui dit « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » Et il ajoute, et ça c'est fondamental, c'est dans 1 Samuel 16:7. Vous pouvez le noter si vous prenez des notes. Si vous n'en prenez pas, vous devriez. 1 Samuel 16:7, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, on regarde l'extérieur des choses, ce qui frappe les yeux. Oh oui, il a l'air très spirituel. Il est bien habillé. Porte une cravate quand il prêche, ou pas. Mais en fait, il faut réaliser que ce qui compte, c'est notre cœur. Et donc, ce chapitre commence par cette précision, la 4e année du règne de Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Vous dites, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir là que c'est passé le 9e mois, le 4e jour? C'est très important. Ça vous montre que ce sont pas des légendes ou des belles histoires, mais que ce sont des faits historiques. Et on peut facilement, avec des tables de calendrier, savoir qu'en fait c'était le 4 décembre 518 avant Jésus-Christ. On peut savoir la date exacte où ce prophète a reçu cette question. La ville de Bethel. Bethel, c'est la maison. Bethléem, c'est la maison du pain. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais c'était pas le temple. Bethel, dans la Bible, fait référence toujours à la ville où un temple païen avait été installé. On peut le voir encore aujourd'hui. Mais cette ville avait envoyé, ils avaient envoyé deux personnes, le prince du feu, Charetzer, c'est ce que veut dire son nom, et Regem-Melech, l'ami du roi. On ne connaît rien d'autre de leur vie. Ces noms et leur signification semblent lourdes de connotations. On pourrait souhaiter être ami du roi. Est-ce que vous êtes Regem-Melech aujourd'hui? Est-ce que vous êtes ami du roi? Parlons de Jésus. avec ces hommes pour implorer l'Éternel en disant, donc ils viennent voir les prêtres de la maison de l'Éternel, là c'est le temple qui est à moitié terminé. Ça fait une petite parenthèse entre le verset 14 le verset 15 du chapitre 6 et le premier verset du chapitre 7, il y a un demi-centimètre sur ma Bible, mais en fait il s'est passé 2 ans. Et pendant 2 ans pendant lesquels le temple, la construction du temple a avancé, et il demande, est-ce que je dois pleurer le 5e mois en me privant comme je l'ai fait tant d'années? L'idée, c'est qu'ils avaient... Dieu n'avait institué qu'un seul jeûne dans sa parole. C'était le jeûne de la fête qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour, le jour des expiations, qui est célébré encore une fois par an par nos concitoyens juifs ou par le peuple juif, ceux qui pratiquent encore leur religion. Mais c'était le seul jeûne qui était demandé au peuple de Dieu. Alors, les hommes avaient rajouté des commémorations, et en fait, ils aimaient bien commémorer les moments tristes de leur vie, de leur passé historique, et ils avaient ajouté des jeûnes. Donc il y avait ce jeûne qui représentait celui qu'ils célébraient, le 5e mois, ça faisait référence donc au 9e jour du 5e mois, l'incendie de Jérusalem et la destruction du temple de Salomon dont il est question dans 2 Rois 25. Et puis ils avaient ajouté l'anniversaire de la chute de Jérusalem, ça c'était le 17 du 4e mois, c'est en Jérémie 52. Il y avait eu aussi Babylone, lorsqu'ils avaient pris le pouvoir sur Jérusalem, avait installé un gouverneur qui s'appelait Guédalia. Et le 3e jour du 7e mois, ils avaient assassiné Guédalia. Il y avait le massacre de 80 hommes, ça c'est dans Jérémie 4. Le 10e jour du 10e mois, c'était le début du siège de Jérusalem par Nabuchadnezzar, on dit en vieux François Nabucodonosor. Et tout ça, c'était des choses qui leur rappelaient leur tristesse. Et on peut comme ça aussi se rappeler des choses tristes, comme le décès d'un proche, comme de mon papa. Et on a une très belle description de la tristesse qui régnait parmi les exilés juifs à Babylone dans le psaume 139. Si vous voulez regarder ça, il est dit, psaume 137, oui. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Un autre nom pour Jérusalem. Nous avions suspendu nos harpes au saule du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais si je ne me souviens plus de toi. Si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Donc il y avait une grande tristesse, et ils se rappelaient le péché de leurs ancêtres, ou leur péché qui les avait conduits à cette tragédie où Dieu les avait, pour les reprendre, pour les corriger, les avait laissés être exilés, soumis par un peuple païen, le peuple de Babylone. Et c'était donc pour cette raison qu'ils avaient commencé à célébrer ce jeûne dont il est question au verset 3. Mais ils se disent maintenant qu'on est en train de reconstruire le temple, qu'il y a un reste qui est parti à Jérusalem, qui va reconstruire la ville. On a reçu ses promesses par le prophète Zacharie qu'il allait bénir Jérusalem. Vous vous souvenez de ces visions qu'on a regardées? Il y avait notamment celle de cet homme qui mesurait le terrain de Jérusalem pour indiquer que Jérusalem allait être restaurée, qu'il y aurait même, ça serait une ville immense. Et on a dit que c'est devenu une grande ville, mais qu'il y a toujours l'accomplissement prophétique à la fin des temps, et que ce sera, on y reviendra dans le chapitre 8, une ville énorme. La parole de l'Éternel, j'aime bien aussi juste une remarque, dois-je pleurer le cinquième mois en me privant? Ça c'est donc le jeûne. Est-ce que je dois continuer à jeûner comme je l'ai fait tant d'années? Ils faisaient ça, mais c'était vraiment une obligation religieuse. Leur cœur n'était pas dans cette recherche de la volonté de Dieu, de mieux connaître la volonté de Dieu, de se rappeler pourquoi ils avaient été emportés, déportés. Non, c'était quelque chose de lourd, de pénible. Et si votre cœur n'y est pas, votre rituel est vide de sens. Si vous êtes là ce matin en disant « Ah, c'est dimanche, il faut que je vienne parce que je... telle ou telle chose », mais si ce n'est pas en accord avec un désir de s'approcher de Dieu, de mieux connaître sa parole, de faire l'expérience de la communion fraternelle, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir louer le Seigneur ensemble, alors vous feriez aussi bien de ne pas venir. Et le Dieu répond par Zacharie. Encore une fois, c'est la parole de l'Éternel. C'est pas l'opinion de Zacharie. Notre prière, c'est que les églises aujourd'hui enseignent la parole de Dieu, pas les opinions teintées de sociologie, de psychologie, d'histoire, de philosophie, qui malheureusement passe souvent comme étant la foi chrétienne. La parole de l'Éternel a été adressée à Zacharie, qui lui dit, dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné et pleuré le cinquième et le septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Est-ce que c'est pour moi que vous venez le dimanche matin au culte? Est-ce pour moi que vous priez, ou pour être en accord avec ma parole, que vous priez ou que vous lisez? En fait, ils jeûnaient et ils pleuraient. Alors c'était un peu pénible parce que ça cassait le rythme de leur vie très occupée qu'ils menaient à Babylone. On a dit qu'en fait, ils s'étaient bien installés à Babylone, qu'ils étaient devenus prospères, ils avaient des commerces, ils avaient de la richesse. Mais quand ils jeûnaient et pleuraient, c'est un peu comme s'ils s'apitoyaient sur eux-mêmes avec complaisance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça? Oh, pauvre de moi! Oh là là! Rien ne me réussit! J'ai encore raté ça, ou j'ai mal. Oh, j'avais une vieille tante corse, et souvent, quand elle était assise, très âgée, et en fait, quand elle avait mal, quand elle se levait, qu'elle faisait, son cri, c'était « Oh, Seigneur, Seigneur !» C'était plus une plainte sur elle-même qu'une plainte, elle s'adressait à Dieu, vraiment. Et puis, il ajoute « Quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez ?» En fait, de temps en temps, il pensait à Dieu, ou il faisait semblant de penser à Dieu en observant un rituel. Mais le reste du temps, ils vivaient comme bon leur semblait. Donc ça, c'est... Zacharie a reçu cette question sur le jeûne, et la première réponse qu'il leur donne, c'est un reproche pour avoir de mauvaises motivations. On peut faire des choses bien pour de mauvaises raisons. Le Seigneur nous dit, c'est pas la peine de faire ça. Il était plus facile de faire un jeûne de temps en temps que de vivre au jour le jour en obéissant, en respectant les demandes de Dieu. Et nous aussi, on peut venir le dimanche au culte. Je prends ça comme exemple de rituel parce qu'on est tous, vous êtes là, donc c'est une action que vous avez engagée. Et puis le reste du temps, on oublie complètement Dieu. Alors c'est pas des fois sciemment, mais on se laisse prendre par le tourbillon de la vie, par les activités, et on oublie de penser à Dieu. On oublie de prier Dieu. On oublie de parler de lui. On oublie surtout de le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il peut nous donner et qu'il nous donne. Et il leur dit, verset 6, votre problème, c'est que vous auriez dû obéir aux paroles. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes ? Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Maître de l'Univers, le chef des armées célestes, à la puissance infinie, avait déjà indiqué ce qu'il devait faire par sa parole. Il devait obéir à la parole de Dieu plutôt que d'ajouter des rituels qui n'étaient même pas demandés par Dieu. Et on peut être facilement influencé par des choses extérieures et on va essayer de respecter des choses qui ne sont demandées nulle part dans la Bible. C'est intéressant qu'on parle du jeûne aujourd'hui, ce matin, parce que jeudi soir, on étudie le livre de Marc. Je vous invite à venir étudier avec nous. C'est plus un style de discussion où vous pouvez poser toutes les questions. Il était question du jeûne dans Marc 2. Et là aussi, le jeûne, ça fait penser qu'on est très spirituel, mais souvent on peut être loin de Dieu. Marc 2, 18. C'est l'épisode où Jésus est invité par ce nouvel apôtre qu'il a choisi, Lévi ou Matthieu, son nom romain, qui était un collecteur d'impôts. Et on sait que les collecteurs d'impôts, c'était des personnes qui étaient détestées par les Juifs parce qu'ils travaillaient pour l'occupant, c'était des collaborateurs, et en plus, le gouvernement romain leur donnait un montant d'impôts à collecter. Et implicitement, ils disaient, tout ce que vous pourrez collecter en plus, c'est pour vous. Et donc, ils extorquaient les gens. Et s'ils n'arrivaient pas à ce qu'ils voulaient, ils faisaient intervenir la force militaire romaine. Donc, c'était des traîtres à la nation, des gens qui extorquaient les gens. Et ils étaient détestés. Et là, il se trouve que Jésus choisit une de ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'il a vu dans son cœur quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'il, quand il fait ce repas pour célébrer son amitié avec Jésus, il invite plein de personnes païennes, plein de pécheurs, comme il est dit. Et entre parenthèses, c'est une chose, on en a parlé jeudi, c'est important d'avoir des amis non chrétiens. On a tendance à vouloir se retrouver entre chrétiens et de ne plus avoir aucun rapport avec même nos familles qui ne sont pas chrétiennes ou nos collègues qui ne sont pas chrétiens. C'est absolument faux comme attitude. On doit être dans le monde, on doit pouvoir influencer par notre comportement, par nos paroles, ceux qui ne croient pas encore. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les pêcheurs, lorsque Jésus est présenté comme quelqu'un qui les aime, malgré leurs péchés, ils ont tendance à vouloir le suivre. Être accepté pour quelqu'un qui sait être dans le mal, c'est merveilleux. Par contre, les chefs religieux, les hypocrites religieux du temps de Jésus, le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Alors, ils viennent pas le voir confronter directement Jésus, mais ils le disent à ses disciples. Mais Jésus a entendu, verset 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs à changer d'attitude. » Il leur dit qu'en fait, verset 18, « Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, eux ils ne mangeaient pas. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Là, on a expliqué, et je vous invite encore une fois à venir étudier avec nous, si vous pouvez, vous libérer le jeudi soir, 17h30. Il leur dit que le jeûne, c'est quelque chose qu'on pratique dans la tristesse, que Jésus, qui est le marié, le futur marié de l'Église, les invités à la noce de l'Église et de l'agneau, ils ne sont pas tristes lorsque le futur marié est là. Par contre, il viendra un moment où il sera reparti et là, ils pourront jeûner. Mais, encore une fois, on jeûne parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Dieu était là, en la personne de Jésus. Et puis, il a cette phrase qui est formidable aussi, qu'il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Si vous avez un médecin, on a des étudiants en médecine, hein, et que vous dites, ah moi je m'occupe pas des malades. Ah non, vous êtes malade, je vous touche pas. J'ai trop peur de tomber malade moi aussi. Et c'est ce que faisaient ces chefs religieux. Ils ne voulaient pas s'approcher de ceux qui avaient besoin de Dieu. Et lorsque Jésus dit qu'il vient pas pour les bien portants, sous-entendu, il n'y a pas un seul bien portant. Même ces chefs religieux étaient malades. Et donc, premier reproche, c'est que il faisait ce jeûne, mais ils ne pensaient pas aux raisons pour lesquelles ils avaient été exilés. Il rappelle que même, donc ça c'est au verset 6, « Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles, et le sud et la plaine étaient habitées. » Si vous allez en Israël aujourd'hui, le sud, ce qu'on appelle le Negev, c'est le mot hébreu pour le sud, c'est désertique. Ce qui est beau à voir, c'est qu'avec de l'irrigation et des méthodes agronomiques modernes, les Israéliens ont réussi à faire des cultures intensives qui nourrissent toute l'Europe. Beaucoup des fruits, des légumes que vous mangez viennent de ce petit pays qui avait été transformé en désert parce que le péché, il s'était éloigné de Dieu. Pendant toutes ces années, Dieu les avait prévenus, il avait envoyé des prophètes. Quand ça n'allait pas bien, ils se rapprochaient de Dieu. Quand ça allait mieux, ils s'éloignaient de lui. Et à la fin, ils ont épuisé la patience de Dieu qu'il a décidé de les livrer dans un dernier. C'était pas pour les condamner définitivement, c'était pour les amener à la fin d'eux-mêmes. Et des fois, Dieu doit faire ça avec nous. Si on est loin de lui, si on ne le considère pas, si on vit comme s'il n'existait pas, il est des fois des moments d'épreuve où Dieu veut recapter votre attention. Parce que par amour, il veut que vous veniez à lui, que vous reveniez à lui. Et donc, Dieu voulait qu'il se rappelle pourquoi ils s'étaient retrouvés en exil, plutôt que de faire un rituel de cérémonie qu'on allait continuer encore 70 ans ou pas. Il leur fait le reproche pour des mauvaises raisons et qu'en fait leur jeûne était plein d'hypocrisie. La deuxième réponse, c'est un rappel. Voici la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs. Ils se sont révoltés, ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, découlant de lait et de miel, ils ont fait un désert. Dieu leur rappelle, en guise de réponse à leur question sur le jeûne, eux, ils voulaient savoir juste s'il fallait continuer 5 ans encore ou 10 ans, et boum, Dieu profite de leurs questions pour remettre en cause leur attitude de cœur. Arrêtez avec vos rituels. Ce que je veux, c'est votre cœur. Quand vous étiez en exil, je voulais que vous réfléchissiez aux raisons pour lesquelles vous vous retrouviez dans cette situation. Vous devez changer de direction, vous devez vous repentir. Dieu veut un peuple qui écoute, c'est-à-dire qui, pas seulement entendre, écouter, mais obéisse à sa parole. Et il dit, voilà ce que je vous ai déjà dit, rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre. Ne pensez pas à faire du mal contre votre prochain. Autrement dit, je vous demande de traiter les autres avec amour. Et vous ne le faites pas, vous êtes égoïste, vous avez fait du mal. Il y a un autre passage dans Matthieu qui parle du jeûne. Matthieu 6, et là aussi on voit encore la condamnation du rituel qui prend le pas sur la réalité du cœur. Dans Matthieu 6, le passage bien connu de Sermon sur la montagne, lorsque vous jeûnez, remarquez qu'il est dit quand vous allez jeûner, pas si jamais il vous arrive de jeûner, c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer. Mais on doit garder ça pour soi-même. Parce qu'il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'il jeûne. Oh, non merci, je jeûne en ce moment. Ah, ça, c'est dur, mais je vais tenir. Non, je vous le dis, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Ah, tu veux qu'on pense que tu es un homme très spirituel, que tu souffres pour prier? Non, toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Tu mets du shampoing, tu te rases, tu mets du déo, tu te fais beau, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Encore une fois, c'est partout dans la Bible. Pas de rituel. Les rituels dégoûtent le Seigneur. Pas de rituel, mais une réalité dans votre cœur. C'est ce qu'il veut. Et ce comportement qu'on doit avoir avec les autres, on le retrouve aussi tout au long de la Bible. Vous vous souvenez peut-être, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, le prophète Michée, 6-8, qui disait « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Être bon avec les autres, c'est ce que demande Dieu. Aimez votre prochain comme vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut mettre en pratique ce qu'on connaît. Le droit, tel qu'il est décrit dans la parole, aimer la bonté. Et là, dans le sens d'aimer la bonté, c'est un commandement, ça ne veut pas dire aimer lorsque les gens vous aiment et sont bons avec vous. Aimer la bonté, ça veut dire exercer la bonté envers les autres et marcher humblement avec ton Dieu. Quand on s'attache au rituel, on tend à juger les autres en leur capacité de respecter un rituel que nous pouvons respecter sans problème. C'était intéressant, l'autre soir, justement, on parlait et l'un d'entre nous a dit « Moi, ça ne me gêne pas de jeûner, de ne pas manger. Par contre, si on me demande de faire le jeûne de vélo, alors là, je serais mal. » Et c'est vrai que c'est pas la nourriture, c'est la chose qui vous est personnelle, que vous auriez du mal à ne pas apprécier, à ne pas pratiquer. Ça montre que vous êtes prêt à faire un sacrifice pour Dieu. Quand je suis devenu chrétien à Seattle, aux États-Unis, j'étais devenu un pêcheur fanatique. Pêche à la ligne, en rivière. Et là-bas, il y a des gros poissons, il y a des saumons, il y a une truite qui devient aussi grosse qu'un saumon, les steelhead, les têtes d'acier, qui remontent les rivières. Et le meilleur moment pour moi, pour y aller, c'était le dimanche matin, avant que je ne devienne chrétien. Mais c'était devenu une passion et un esclavage. Je me levais tôt toute la semaine pour aller au travail, mais le dimanche, je me levais encore plus tôt pour être le premier sur les bons coins de pêche. Il a fallu que dès que j'en ai attrapé une de ces truites, c'est moi qui étais accroché. Pas tant le poisson, mais moi j'ai comme l'hameçon, je voulais y aller tout le temps. Le samedi soir, je me couchais tard parce que je préparais mes appâts, mes fils de pêche, mes hameçons. J'étais crevé le dimanche soir, je commençais la semaine, j'étais épuisé. C'était devenu une passion. Et j'ai su, quand on m'a parlé de Dieu, qu'on m'a invité à venir à l'église, j'ai su que j'ai commencé à venir et ça me faisait très mal. Le jeûne de pêche me restait en travers de la gorge comme un hameçon. C'était pas facile, mais ça, c'est parce que je regardais à ce qui me manquait dans ma vieille nature de pêcher. Il n'y a rien de mal à faire la pêche, et je vous encourage, si vous êtes des pêcheurs avec un accent circonflexe, à continuer à le faire. Mais j'ai su que mon cœur était changé lorsque je me suis aperçu qu'en fait, j'avais plus de plaisir à venir au culte, à louer le Seigneur avec mes frères et sœurs, à connaître, à découvrir le Seigneur, qu'aller me crever pour un poisson que j'aurais pu acheter pour une fraction du prix que ça me coûtait au supermarché. C'est ça qui compte, c'est encore une fois notre cœur. C'est pas le rituel. Un auteur que je lisais, un commentateur, disait que notre hypocrisie, souvent, elle s'accompagne d'un langage de surface. Quand on est chrétien depuis quelque temps, on apprend des expressions. On dit qu'on va partager sa foi. Et cet auteur fait remarquer que la plupart des chrétiens n'ont pas assez de foi pour la partager. C'est un peu méchant, mais... On dit lui donner sa vie. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et cet auteur dit en plaisantant, vous croyez vraiment qu'il veut de votre vie ? Ésaïe 64, 6 nous dit que notre justice est pareille à un habit taché de sang. Alors, ces expressions peuvent recouvrir une vérité, mais il faut faire attention, ne pas utiliser ces clichés autant que faire se peut. Sinon, ça devient du patois de Canaan, c'est-à-dire du langage codé qui perd de sa valeur, de sa signification. Et il dit, le plus terrible, c'est le mot d'amour. Aimer, c'est un mot sacré, c'est un mot fantastique dans le sens biblique, l'amour agapé, l'amour qui se sacrifie pour les autres. Mais il dit, se retrouver derrière une voiture sur laquelle il y avait un autocollant qui disait « Klaxonnez si vous aimez Jésus ». Et là, il y a un nom. C'est du n'importe quoi. Aimer, c'est plus que de klaxonner parce qu'on dit qu'on aime Jésus. Et ça fait partie, son raisonnement, c'était que ça fait partie de cette approche extérieure de la foi. Est-ce que vous avez un poisson sur votre voiture ? J'en ai un. Mais en fait, c'est plus pour me préserver de toute action intempestive de ma part, parce que je suis censé témoigner de Jésus, donc si j'ai un poisson, je fais un peu plus attention à la façon dont je traite ceux qui me font des queues de poisson, etc. La Bible nous donne seulement deux sacrements à respecter, c'est le baptême et la Sainte Cène. Mais ils nous rappellent, c'est une parenthèse, ils ont opprimé la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre. Aujourd'hui, nous avons parmi nous des personnes qui viennent de loin, des personnes qui sont des migrants, qui attendent une position de demandeur d'asile, qui ont voyagé dans des circonstances horribles, au péril de leur vie. Et on peut endurcir nos cœurs, opprimer la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre, le migrant. Et encore plus terrible, c'est méditer de faire du mal à quelqu'un. C'est du meurtre, entre guillemets, avec préméditation. Ils ont refusé d'être attentifs. Ce que le Seigneur veut, c'est pas vos sacrifices, c'est pas vos rituels, c'est votre écoute. Ils s'étaient révoltés. Le mot original, littéralement, c'est ils ont haussé les épaules comme un animal qui veut refuser qu'on lui mette un joug sur les épaules. Dans Jean, il est dit que nous savons, dans Matthieu, dans Jean, il est question du joug que nous avons avec notre Seigneur. C'est lui qui fait l'œuvre. Et c'est pas. Il faut se laisser faire lorsque Dieu veut mettre sa main sur nous et nous utiliser. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont rendu leur cœur dur comme du diamant. Ce n'est pas pour dire que leur cœur est maintenant précieux, le diamant c'est la pierre qui déchire toutes les autres, qui raye toutes les autres. Et ça dans le but de ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel qu'il leur adressait par son esprit. On a une progression dans le rejet. Il y a d'abord ce refus d'écouter, refuser d'être attentif. Ensuite il y a une révolte. Après, on endurcit nos oreilles et puis on se retrouve avec un cœur qui rejette Dieu. Et ce cœur dur comme le diamant, c'est pour ne pas écouter la loi, les paroles de l'Éternel. Et ça peut être quelque chose qu'il faut surveiller. Si vous trouvez que vous avez perdu votre faim pour lire la parole de Dieu, pour l'écouter, pour la consulter, ça peut souvent être un signe que votre cœur s'endurcit et que vous n'êtes plus prêt de Dieu, que vous vous éloignez de lui. Parce que c'est par sa parole essentiellement qu'il nous parle. Son esprit est là pour la restituer à nos cœurs. Il peut nous donner des impressions. On prie. Il peut nous donner des réponses par l'esprit. Mais si vous avez du mal, recommencez à lire la parole. Je me souviens d'un temps où j'étais une grande décision, savoir si on allait rester en France ou repartir aux États-Unis. Ma mère était malade. Je ne trouvais pas de travail en France, j'étais reparti, et j'étais vraiment, quand j'étais retourné aux États-Unis, j'étais vraiment triste, et j'avais vraiment le cœur déchiré. Et je me souviens, j'avais eu ce conseil, on disait, même si vous avez du mal à lire la parole, commencez dans le livre des psaumes. Lisez jusqu'à ce qu'un passage vous parle. Et généralement, on n'a pas besoin de lire très longtemps lorsqu'on lit le livre des psaumes pour qu'un sentiment exprimé par l'auteur, essentiellement David, il y en a d'autres aussi, fasse écho à ce que vous ressentez. Et là, vous pouvez repartir, vous pouvez reprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Et il y a des conséquences. Dieu dit à un moment, je ne vais pas les écouter, ils me prient, mais je ne vais pas exaucer leurs prières, parce qu'ils ne m'écoutent pas. Et encore une fois, le mot écouter est un bon mot, parce que ça veut dire à la fois entendre et obéir à l'écoute de sa parole. C'est le nom du message que je mets en ligne chaque jour sur Calvary Chapel sur Facebook. À l'écoute de sa parole. Est-ce que je suis à l'écoute de sa parole? Est-ce que je l'entends? Est-ce que je me donne le temps de l'écouter? Mais surtout d'y obéir. Ça implique, le verset 13, que quand on reste sous l'enseignement de la parole, la réponse à nos prières devrait suivre. Là, ils n'écoutaient pas la loi, il a dit, ils ne m'ont pas écouté, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Et puis, il continue en disant qu'il les a dispersés comme avec un tourbillon, c'était la conduite cruelle de Babylone, parmi des nations qu'ils ne connaissaient pas, et le pays a été aussi abandonné. C'était un pays de délices, il était question du pays d'où découlent le lait et le miel, pour dire qu'il y avait des cultures, des produits agricoles, des élevages abondants. Ils ont fait un désert. C'est important de ne pas se fixer sur le rituel. Ça donne une fausse confiance. Combien de nos contemporains ne connaissent rien de Dieu, mais même ceux qui ont pu, dans leur enfance, avoir une approche, avoir été baptisés peut-être dans la religion catholique, ils se moquent complètement de Dieu. Ils ont complètement oublié Dieu. Dieu voulait faire un pays de délices pour leur vie, et par leur rejet de Dieu, par leur manque d'attention, par leur, au mieux, leur accent sur les rituels et non pas sur le cœur, ce pays de délices que Dieu voulait leur donner pour leur vie, il se transforme en un désert. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la réponse sur le jeûne. On verra qu'il y a deux autres réponses à la question amenée par Charetzer et Regem-Melech. Dans le chapitre 8, il y aura la restauration de la faveur et le retour du peuple de Dieu à Jérusalem. Si on devait résumer, c'est l'obéissance vaut mieux que les rituels. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'on voit qu'elle est vivante, elle est efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, pour séparer les sentiments de nos cœurs, pour couper comme la moelle des os. Seigneur, elle pénètre au plus profond. Et Seigneur, elle m'a touché, elle m'a montré tout ce que je pouvais avoir comme attitude extérieure qui ne reflétait pas l'état de mon cœur, et je te demande pardon pour ça, et je veux m'en repentir. Je prie pour tous ceux qui ont le même sentiment aujourd'hui, qu'il y a des choses qui sont des rituels dans leur vie, mais qui ne cherchent pas à te rencontrer. On peut lire la Bible tous les jours rapidement en visant à cocher une liste de lecture plus qu'à te rencontrer. Pardonne-moi quand je fais ça, Seigneur. Aide-nous à réaliser que tu vois nos cœurs, Seigneur. On peut tromper les autres, mais on ne peut pas te tromper. Et tu as plein de bons plans pour nous, Seigneur. Tu veux transformer nos vies en un pays de délices, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, des difficultés. Mais si on t'aime, si on sait que tu nous aimes, Seigneur, et qu'on vit dans cette honnêteté de relation, on est vraiment béni, Seigneur. Je prie pour que chacun de nous le comprenions mieux aujourd'hui. Nous prions toutes ces choses dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.